I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça va vite, ça va trop vite. Mais ça, c'était avant. Le chasse-neige des banques centrales a bien fonctionné. L'inflation a ralenti, mais l'économie aussi, un peu trop vite, à tel point qu'on se demande où est passée la croissance. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité de la rédaction des Échos. Un programme à retrouver sur Apple Podcasts, Podcast Addict, Castbox, Google Podcasts ou encore Deezer et Spotify. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.
Vous venez nous annoncer que la croissance de la France est moins forte que prévu, donc vous ne maintenez pas votre prévision de croissance de 1,4%?
Elle était de 1,4% pour 2024 et nous la révisons à 1%, donc une croissance qui reste positive.
Il y a des chiffres qu'on aime voir baisser et d'autres pas vraiment. La croissance ralentit en France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire est venu l'annoncer lui-même à la télévision. Un ministre qui s'invite sur la première chaîne pour parler de la croissance un dimanche soir à 20h avant le film dominical, à se demander si l'heure est grave.
L'heure est grave, je ne sais pas Pierrick, mais les prévisions de Bercy étaient de plus en plus décalées au regard de la conjoncture économique.
Nathalie Silbert est journaliste au service France des Échos.
L'activité a stagné en France aussi bien au troisième trimestre 2023 qu'au quatrième. On a eu une croissance nulle sur les deux trimestres. Et la conjoncture récente n'invite pas non plus à un grand optimisme. Donc, il devenait urgent pour le gouvernement de revoir ses prévisions.
Et plus vite on est sincère, mieux c'est ce que vous avez expliqué un conseiller gouvernemental à vous, Isabelle Fissek. Mais pour qu'on comprenne bien, pourquoi ce ralentissement de l'économie française ?
En fait, tant l'investissement des entreprises que la consommation des ménages, qui est le premier moteur de la croissance en France, ont stagné en fin d'année. Les exportations, elles aussi, augmentent très peu dans le contexte de ralentissement économique un peu partout dans le monde, notamment dans la zone euro. Hein. L'Allemagne est entrée en récession en fin d'année. Donc, tout ça pèse sur la conjoncture française.
Ça veut dire que, finalement, cette révision à la baisse des prévisions de croissance de la part du gouvernement était prévisible ?
Oui. Lorsque le gouvernement a publié ses prévisions à l'automne dans le cadre de la préparation de la loi de finances 2024, les premières réactions ont immédiatement été assez réservées. Tous les économistes, au Conseil des finances publiques également, estimaient que la prévision d'une croissance de 1,4% en 2024 était bien trop élevée au regard de la conjoncture qui était attendue. Il faut s'attendre à ce que ce soit cette année que les effets restrictifs de la politique monétaire sur l'économie réel joue à plein. Dans ces conditions, l'activité va continuer de ressentir les effets de l'argent plus cher et il ne faut pas s'attendre à une accélération rapide dans les prochains mois. L'INSEE table sur une croissance de 0,2% au premier trimestre 2024 comme au deuxième trimestre 2024, ce qui veut dire que l'activité ne va pas accélérer rapidement.
Alors le gouvernement table désormais sur une hausse de 1% du PIB cette année. Qu'est-ce que ça implique pour l'État et les finances publiques ?
Comme l'a dit Bruno Le Maire, moins de croissance, c'est moins de recettes fiscales et donc la nécessité de trouver davantage d'économies s'il veut tenir son objectif d'un déficit public ramené à à 4,4% du PIB. On sait qu'en 2023, l'objectif de déficit public, qui était de 4,9% du PIB, n'a pas été tenu, justement en raison d'une fin d'année beaucoup plus morose que ce qui était anticipé. Donc la marche est encore plus haute en 2024 pour tenir le déficit, ce qui explique le plan d'économie de 10 milliards d'euros annoncé ce week-end par Bruno Le Maire.
Quand je dis qu'il faut faire des économies, c'est pour garder la maîtrise de nos finances publiques. On gagne moins, il y a moins de recettes fiscales, on dépense moins. Je crois que c'est du bon sens et que n'importe quel ménage qui nous écoute peut comprendre que quand on gagne moins, on dépense moins.
Baisser les dépenses plutôt qu'augmenter les impôts, le choix assumé de Bruno Le Maire, toujours sur TF1. Il parle de courage et de responsabilité. Il va y avoir des annulations de crédits, des économies à trouver dans les politiques publiques. Pas simple alors que les syndicats de la SNCF s'agitent et que les agriculteurs repointent le bout de leur tracteur avant le salon de l'agriculture. Mais ce message s'adressait aussi aux agences de notation, alors que la note de la dette française est sous pression, une épée de Damoclès au-dessus du gouvernement que Bruno Le Maire espère conjurer avec un plan d'économie.
La peur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas ?
Non, sensei !
La douleur n'existe pas dans ce dojo, n'est-ce pas ?
Non, sensei !
Alors je le disais, le ralentissement économique complique la tâche du gouvernement. Nathalie, quels sont les secteurs qui souffrent le plus ?
On peut tout d'abord citer le BTP. Alors jusqu'à présent, le second œuvre a plutôt bien résisté en raison de la très forte demande pour les travaux de rénovation thermique. Avec la réduction programmée des aides à MaPrimeRénov, il faudra voir si l'activité du second œuvre résiste toujours dans les prochains mois. En revanche, l'activité de gros œuvre est sinistrée depuis l'an dernier. Les mises en chantier sont au plus bas. C'est le secteur le plus sensible à la remontée brutale des taux d'intérêt. Juste, j'ajoute une précision. Le secteur de l'immobilier est celui qui a connu le plus fort taux de sinistralité l'an dernier. Il y a eu un doublement des défaillances des agences immobilières. Le commerce aussi est très touché dans une période où l'inflation reste encore élevée, où l'accès au crédit est un peu plus compliqué, la consommation est morose.
La croissance ralentit donc en France. Mais Nathalie, comment se comportent les autres agrégats importants de l'économie française ?
Un des clignotants inquiétants est la remontée du taux de chômage. Le taux de chômage a fini l'année 2023 à 7,5%, c'est-à-dire 0,4 points au-dessus de son niveau de la fin 2022. Pour l'instant, cette progression s'explique surtout par l'augmentation de la population active, à savoir les effets de la réforme des retraites qui décale l'âge de départ à la retraite. Mais les prévisions des économistes sont assez pessimistes. L'OFCE, par exemple, s'attend à 60 000 destructions d'emplois cette année. On pourrait approcher un taux de chômage de l'ordre de 8% en fin d'année, selon l'OFCE. S'agissant de la production industrielle, il faut savoir qu'elle n'a toujours pas renoué avec son niveau d'avant la crise du Covid. Elle est toujours 3,5 points inférieure à son niveau moyen de 2019. Et certains secteurs souffrent particulièrement. Il s'agit de tous les secteurs qui dépendent beaucoup de l'énergie, comme la chimie, le bois-papier, qui tournent toujours au ralenti.
Bon, ça va mieux qu'au début ?
Non.
D'accord.
Pire ?
Ouais. C'est la déprime, vraiment, quoi.
La déprime.
Ouais. Mais pas plus, pas trop le...
Non, non la mélancolie.
Mélancolie, c'est bien. C'est
mélancolie.
On va essayer quand même de voir une bonne nouvelle dans ce tableau moins favorable. La France va éviter la récession, 1% de croissance, on peut l'espérer en tout cas. Les économistes que vous avez régulièrement en ligne sont-ils aussi optimistes ?
Pas du tout. Le consensus des économistes table aujourd'hui sur une croissance limitée à 0,7% en 2024. Donc c'est encore 0,3 points de moins que la nouvelle prévision du gouvernement. Et l'une de leurs interrogations majeures, justement, c'est de savoir sur quel ressort l'économie française va pouvoir compter pour rebondir. Les effets restrictifs de la politique monétaire sur l'économie réelle vont jouer à plein en 2024. Donc ça veut dire qu'ils vont être encore plus forts que l'an dernier. Et on voit bien que aujourd'hui la demande extérieure en France est affaiblie par le ralentissement économique dans toute la zone euro. L'investissement des entreprises, qui a été l'un des moteurs de la croissance en 2022 et aussi en 2023, commence un peu à se tasser, sans s'effondrer néanmoins. Certains économistes misent sur la reprise de la consommation, mais elle reste encore à confirmer. Les optimistes pensent que la désinflation va favoriser le pouvoir d'achat des Français et donc soutenir la demande intérieure, puisque c'est le premier moteur de croissance de la France. Mais d'autres experts sont un peu plus prudents. Et rappelle quand même que la dégradation du marché du travail et aussi la volonté des ménages de maintenir une épargne élevée peut freiner la consommation cette année.
Justement, vous parliez de pouvoir d'achat. Il y a une étude de l'OFCE qui a été publiée il y a quelques jours et qui donne plutôt un motif d'espoir de ce point de vue-là, en tout cas pour les Français.
Le problème, c'est le décalage entre le pouvoir d'achat et le ressenti des Français. Alors, au niveau macroéconomique, effectivement, le pouvoir d'achat pris globalement devrait progresser cette année. Si on raisonne par unité de consommation pour tenir compte de la composition des ménages, il devrait également augmenter de 1% en moyenne cette année. Mais le pouvoir d'achat recouvre des situations très très différentes selon les catégories de Français. Sur les deux dernières années, le pouvoir d'achat a été d'ailleurs à peu près stable, mais en réalité, ce sont les revenus tirés du patrimoine qui ont dopé ce pouvoir d'achat, ce qui signifie que les Français qui ne vivent que de leur travail ont, eux, dû acter une perte de pouvoir d'achat. Donc, une perte nette du pouvoir d'achat tiré de leur salaire. Du coup, on a des situations qui sont extrêmement diverses, hétérogènes.
C'est solide ?
À toute épreuve.
L'objectif de 1% est crédible et solide, a martelé le ministre de l'Économie. Un objectif jugé aussi réaliste par le gouverneur de la Banque de France, qui prévoit de son côté une croissance de 0,9%. Mais la France n'est pas la seule à voir sa croissance ramollir depuis plusieurs mois, dans le sillage d'une hausse des taux qui pèse sur l'investissement et la consommation. Car c'est toute l'Europe qui ralentit. C'est ce que m'a expliqué Guillaume de Calignon, journaliste au service international des Échos.
Tout le monde freine. Alors, plus ou moins selon les pays, hein, certes, mais quand la première économie de la zone euro, l'Allemagne, fléchit, eh bien, tous ses voisins en payent les conséquences. La période inflationniste qu'on a vécue a amputé le pouvoir d'achat des ménages et la crise énergétique a eu un effet délétère sur la production industrielle allemande. De l'autre côté du Rhin, la production industrielle a baissé de 7% depuis le début de la guerre en Ukraine. Pour un pays industriel comme l'Allemagne, c'est énorme. Si bien que le PIB allemand a reculé de 0,3% sur les trois derniers mois de 2023 et il va encore baisser au premier trimestre 2024. Et il est à peine supérieur à ce qu'il était avant le Covid. Rendez-vous compte, cela fait 4 ans sans croissance pour l'Allemagne. Résultat, le PIB de la zone euro stagne, lui aussi, depuis le troisième trimestre de l'année 2022.
Guillaume, ce ralentissement va-t-il infléchir la position de la Banque Centrale Européenne engagée depuis 2 ans dans une lutte sans merci contre l'inflation ?
Peut-être, mais pas tout de suite en tout cas. La BCE n'a jamais relevé autant ses taux qu'entre la mi-2022 et l'automne 2023 pour venir à bout de l'inflation. Pour l'instant, ce n'est pas tant la hausse des taux qui explique le recul de l'inflation que le repli des prix de l'énergie. Mais il est vrai que désormais, les taux d'intérêt élevés pèsent sur la croissance. Il est plus cher de s'endetter, donc d'acheter un logement pour un ménage, ou d'investir pour une entreprise. Le secteur de la construction, en pleine débandade, en sait quelque chose. Depuis juillet 2022, la BCE a relevé ses taux de 450 points de base. Pour une entreprise française, le taux auquel cette entreprise emprunte aujourd'hui est proche de 5,5%, alors que le PIB français stagne. Difficile de penser que ça puisse durer très longtemps, d'autant que l'inflation semble calmement mais sûrement se diriger vers 2% dans la zone euro, c'est-à-dire l'objectif de la BCE. Seulement voilà, les dirigeants de la BCE veulent s'assurer que la hausse des salaires est compatible avec le retour de l'inflation vers 2%. Avec des augmentations salariales de 4,5% en moyenne dans la zone euro sur la fin de 2023, eh bien, ils n'en sont pas certains. Quitte à prendre le risque que l'activité économique se dégrade encore plus, que le chômage augmente pour que la demande baisse et que les prix arrêtent de grimper, bah pas sûr. Les tensions risquent de repartir quand même au sein du Conseil de politique monétaire à Francfort. François Villeroy de Galhau, le gouverneur de la Banque de France, plaide pour une baisse des taux. C'est ce que les marchés pensent aussi.
Gros plan sur la zone euro qui montre des signes d'essoufflement.
Alors oui, les derniers chiffres ont été publiés aujourd'hui par Eurostat, donc l'Office européen de la statistique. Et ce que l'on constate, c'est que l'économie de la zone euro fait moins bien que prévu.
L'économie européenne en berne, comme on l'entend ici sur France 24, au deuxième trimestre 2023, la zone euro plafonnait déjà à plus 0,1%. Guillaume, si l'on regarde de l'autre côté de l'Atlantique, comment se portent les États-Unis ?
Sur le papier, l'Amérique va bien. Dans les urnes, c'est autre chose, on verra bien. Les États-Unis ont évité la récession l'an passé, alors que la Réserve fédérale n'avait jamais monté ses taux aussi vite. Il faut dire que pendant que la Banque centrale américaine appuyait sur le frein, le gouvernement américain, lui, avait le pied sur l'accélérateur. Les dépenses publiques engagées par l'administration Biden pour réindustrialiser le pays, pour accélérer la transition énergétique, ces dépenses, elles ont permis de soutenir l'activité. Résultat, alors que beaucoup d'économistes pensaient que l'économie américaine ralentirait en 2023, elle est repartie. L'emploi est resté dynamique et les ménages américains ont continué à consommer. Finalement, la croissance a atteint 2,5% en 2023 de l'autre côté de l'Atlantique. Alors l'affaire risque d'être un peu plus compliquée cette année, la croissance devrait freiner et approcher 1% parce que la hausse des taux commence à peser sur les finances des entreprises, parce que les créations d'emplois risquent aussi de se faire un peu moins nombreuses et que les ménages ont à peine épargné l'an passé, donc la consommation devrait un peu ralentir. Mais comme nous sommes dans une année d'élection présidentielle aux États-Unis, on peut penser aussi que tant la Fed que l'administration Biden feront tout pour que l'économie ne plonge pas.
Alors l'OCDE table quand même sur une croissance encore de 2% aux États-Unis, au moins deux fois supérieure à ce qu'on va connaître dans la zone euro. Pourquoi ce différentiel de croissance avec les États-Unis et comment évolue-t-il ?
Alors il évolue nettement en notre défaveur. Il y a 25 ans, lors de la création de la monnaie unique européenne, le PIB des États-Unis dépassait de 11% celui de la zone euro en parité de pouvoir d'achat, c'est-à-dire en tenant compte de la différence entre les niveaux de prix des deux zones. À la fin 2023, l'écart s'est considérablement creusé. Le PIB américain est désormais un tiers plus important que celui de la zone euro. Le problème, c'est que le mouvement s'accélère depuis la fin du Covid. Depuis la fin 2019, le PIB allemand a stagné. Celui de la France a augmenté de 1,8%. Aux États-Unis, il a bondi de 8,2%. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, le gouvernement américain a plus soutenu l'économie que ne l'ont fait les Européens, comme on l'a dit. Ensuite, et c'est très important, la zone euro a été touchée de plein fouet par la guerre en Ukraine et par la crise énergétique qui s'en est suivie en raison de la dépendance européenne vis-à-vis des hydrocarbures russes. Ce n'est pas le cas de l'Amérique qui produit, elle, plus de gaz et de pétrole qu'elle n'en consomme. Elle a même donc profité de la guerre lancée par Vladimir Poutine. La conséquence, c'est que les consommateurs européens ont peur de l'avenir. Ils préfèrent épargner pour faire face au futur plutôt que de consommer. L'Américain moyen, lui, il est optimiste et il dépense allègrement son argent.
Mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je croyais qu'on faisait gaffe.
Mais qu'on faisait gaffe ? Vous avez une idée du pognon qui fout le camp dans les banquets, les balles, la décoration, le mobilier, hein ?
Vous avez évoqué le poids notamment de l'administration américaine qui a dépensé sans compter encore plus qu'en Europe. Les pouvoirs publics sont-ils les seuls responsables justement de ce retard européen ?
Non, bien sûr, mais ils ont quand même leur part de responsabilité. Ce sont bien les gouvernements allemands successifs qui ont décidé de s'approvisionner en gaz russe pas cher et de baser leur modèle économique sur les exportations vers la Chine, un pays qui se referme désormais. Quant à la politique économique européenne menée, elle est contrainte. Les États-Unis peuvent s'endetter presque autant qu'ils veulent, puisque la planète entière veut des dollars. Ce n'est pas le cas de l'Europe. Donc le déficit public américain, qui a atteint 7% du PIB en 2023, Il est impossible d'avoir le même niveau de ce côté-ci de l'Atlantique. Et il faut rappeler aussi que les Allemands et les Français, par exemple, ont du mal à s'entendre sur ce que devrait être une politique budgétaire commune. Et pour finir, la BCE n'est pas la Fed. La BCE est dominée par son homologue américaine. C'est la Fed qui donne le la sur les marchés de change, sur les marchés obligataires ou actions. Et enfin, il est difficile pour les gouvernements européens de lutter contre la déprime ambiante d'un vieux continent qui tend à avoir peur de l'avenir.
Avantage donc pour les États-Unis en termes de croissance, avantage aussi en termes de productivité. On parle beaucoup de l'intelligence artificielle. Guillaume, est-ce qu'elle peut réveiller cette productivité en Europe et bien sûr aux États-Unis ?
Alors on peut l'espérer. La productivité par heure travaillée a déjà commencé à augmenter aux États-Unis depuis le Covid. Elle a progressé de 6% depuis 2019, alors que dans la zone euro, elle n'a grimpé que de 0,8%. Alors, cela ne s'explique pas encore par le développement de l'intelligence artificielle, mais par les investissements en technologie des entreprises qui ont commencé à investir aux États-Unis beaucoup plus tôt qu'en Europe. Et donc, on voit déjà la différence entre le taux d'investissement des deux côtés de l'Atlantique. Et elle s'explique aussi, cette différence de productivité, par la politique économique américaine. Quand vous avez un taux de chômage qui est très bas, que les salaires ont tendance à augmenter, eh bien, à partir de ce moment-là, les entreprises ont tendance, sont incitées à investir en technologie, en automatisation, et donc il y a une modernisation. Mais l'IA, clairement, est un espoir, parce qu'elle peut faire de nous tous des salariés, je vais les appeler « augmentés », entre guillemets. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'IA va probablement nous rendre plus performants au boulot. Elle va nous permettre de nous concentrer sur des tâches plus intéressantes et sur les tâches qui font la part belle à la créativité en nous enlevant les facettes les plus ennuyeuses de nos jobs, les plus routinières. Pour un journaliste économique comme moi, par exemple, ça signifie que je vais avoir plus de temps pour enquêter et que c'est l'IA qui cherchera pour moi des statistiques économiques, par exemple. Donc, à moi, le reportage et l'enquête, fini la recherche fastidieuse sur le site de l'INSEE de la différence entre l'inflation en France et en Allemagne depuis mai 81. Ça, c'est le bon côté de la chose. Mais il y en a un de côté qui va aussi, lui, être difficile à gérer. L'IA va aussi détruire des emplois, les plus routiniers, donc, on l'a vu. Et que va-t-on faire des gens qui vont perdre leur travail ? Il va falloir les former, et l'expérience passée montre que cela n'est jamais facile. La destruction créatrice met du temps à se mettre en place. Les ouvriers sidérurgistes lorrains ne sont pas devenus des développeurs informatiques en 3 ans. Tout le monde n'est pas capable d'exercer un métier créatif. Donc, comment faire pour que l'IA ne soit pas une machine à exclure les générations les moins jeunes de l'emploi à l'avenir ? Le capitalisme exige des êtres humains une adaptation rapide à toute transition technologique, et celle-ci pourrait être très rapide. La question, c'est donc de savoir si nous saurons gérer cette transition technologique qui va demander des réformes économiques, sociales et culturelles.
Je peux vous toucher, hein, vous êtes bien réel, vous n'êtes pas une IA. Hein.
Je ne suis toujours pas une IA.
Merci Guillaume de Calignon et merci Nathalie Silbert, journaliste aux Échos. Vous pouvez retrouver leurs analyses et décryptages sur la conjoncture française et mondiale sur leséchos.fr. Cet épisode de La Story a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.